L'objectif général que je propose pour ce cycle à toutes les personnes qui devront prêcher dans les prochaines semaines autour de ce thème du royaume de Dieu, c'est d'encourager chacun de nous à découvrir dans la parole biblique ou à redécouvrir de manière plus approfondie dans la parole biblique le dévoilement progressif d'un thème central et capital, à savoir le règne du Dieu unique, éternellement souverain et bon. Alors peut-être que la question qui se pose à vous, c'est pourquoi un cycle de prédication autour du thème du royaume de Dieu ? Oui, nous vivons dans des temps où il n'est pas évident d'aborder une question du royaume de Dieu. En plus, on a un arrière-plan culturel français où nous savons très bien comment on traite les rois et comment tout ça se termine, n'est-ce pas ? Et nous vivons aussi dans une époque de défiance généralisée vis-à-vis de toutes sortes de figures d'autorité. Alors pourquoi parler du royaume de Dieu ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais donner trois raisons non exhaustives, mais trois raisons qui me semblent importantes. D'abord parce que c'est un thème central qui traverse l'ensemble de l'écriture biblique. Tant et si bien que certains auteurs, et c'est le cas du théologien Goldsworthy, j'ai recommandé à l'équipe des prédicateurs son livre « Le royaume révélé » qui inspire également le titre d'ailleurs de cette prédication. Professeur émérite d'Ancien Testament et de théologie biblique, il nous propose d'approcher la Bible comme le récit du dévoilement progressif du royaume de Dieu. Il écrit ceci, « Le royaume de Dieu se dessine par petites touches au fil des étapes de la révélation biblique, depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'il prenne toute sa dimension dans la vie et dans l'œuvre de Jésus. » On pourrait donc, comme il le suggère, structurer de manière générale et simplifiée le récit biblique comme une série d'étapes par lesquelles le royaume, la façon d'y entrer et d'y vivre sont révélées. Et c'est d'ailleurs le second intérêt de cette étude du thème du royaume de Dieu que de permettre à chacun de nous de voir plus clairement l'unité de l'écriture et de l'histoire de la révélation du premier au second testament ou de l'ancien au nouveau testament. Troisièmement et dernièrement, en nous intéressant au thème du royaume, il me semble que nous sommes invités à revoir un certain nombre de nos priorités si nous prenons au sérieux les paroles du Christ qui nous dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais également lorsqu'il nous donne des mots de la prière à ses disciples, d'abord quand il lui demande « Apprends-nous à prier. » La seule fois où Jésus va leur donner des mots de la prière. « Quand vous voulez prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Si nous voulons donc prier cette prière ou nous approprier ces paroles de Jésus, il me semble important de prendre le temps de nous poser un certain nombre de questions à propos de ce royaume ou de ce règne. Quelle est la nature de ce règne ? Comment ? Quand ? Où doit-il venir ? Et puis, quelle est la finalité de ce règne ? Alors, vous m'avez entendu utiliser tantôt l'expression « royaume de Dieu ». Et maintenant, vous m'entendez parler de règne de Dieu. Alors, royaume de Dieu, ou règne de Dieu, ou royaume des cieux. Suivant les contextes, l'expression aura une connotation tantôt dynamique, ici donc faisant référence à la fonction royale, à l'exercice de l'autorité royale. Et dans ce sens, les traducteurs traduiront le règne de Dieu pour bien souligner qu'il s'agit de sa royauté, de l'exercice de son autorité en tant que souverain. Mais de ce premier sens attesté dans l'Écriture dérive un sens secondaire qui est un sens un peu plus spatial, royaume de Dieu ou royaume des cieux, désignant un territoire, un domaine ou une sphère sur laquelle Dieu règne. C'est donc un corollaire, une conséquence de la première réalité du règne dynamique de Dieu. Alors je m'arrête ici pour donner quelques indications générales d'introduction qui vous ennuient, je le vois. Vous vous dites, mais notre pasteur, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Il a l'impression d'intervenir en institut biblique ou en faculté de théologie. C'est le propre des introductions générales d'être parfois ennuyeuses. Si vous prenez votre Bible d'étude, quelle qu'elle soit, vous avez droit à de longues introductions générales que je vous recommande vivement de lire. Elles semblent ennuyeuses, mais en fait, elles posent tout au long de votre lecture, elles préparent en quelque sorte l'approfondissement, elles nous donnent un certain nombre de balises. Et quand on ne sait pas avoir ces balises, eh bien, il va vous arriver ce qui est arrivé à mon fils et à nous-mêmes il y a quelques jours. Nous sommes allés en rando. Et alors, moi, j'ai pris la tête de la rando et puis je leur ai expliqué, voilà, les balises du GR, c'est rouge, c'est blanc, et puis c'est jaune, c'est blanc, et puis si vous voyez une croix, ça veut dire que ce n'est pas le chemin de rando, etc., etc. Et donc, j'ai fait à l'aller et au retour, lorsque nous rentrions, et c'est mon fils qui a pris les devants, tout sûr de lui, et on le suit, et on le suit. Et je n'ai pas fait attention. Jusqu'à un moment donné, il me dit, mais papa, nos vélos ne sont plus là. Oui, parce qu'on était allé en rando avec les vélos et puis on les avait laissés à un endroit et puis on a continué à pied parce que ça devenait plus possible de pratiquer sur un chemin très caillouteux. Et alors là, je me rends compte, je lui pose la question, « As-tu vu les balises ?» Il me dit, « Ah mais non. » Je lui dis, « Ok, c'est pas grave, on va rentrer au dernier point où on s'est assis pour prendre notre goûter, où il y a des balises. » Et on est rentré en arrière. C'est presque une conversion. On est rentré. On est rentré. Quand on loupe les balises, eh bien, faut s'arrêter. Au lieu de persévérer mordicus dans une mauvaise voie, sur la mauvaise piste, il faut se poser la question, savoir, est-ce que je ne dois pas faire demi-tour ? Rentrer en arrière. Trouver la bonne balise. Parce que même s'il y avait une route à côté, le problème, c'est que la route n'était pas la bonne route pour rentrer où on était, d'où on était parti. Et puis surtout, on n'allait pas renoncer à nos quatre vélos. Quand même. Alors on est rentré, on a trouvé la balise. Et si je suis là ce matin, c'est qu'on a bien retrouvé notre chemin. Et ça fait du sport en passant. Une dizaine de kilomètres, ça fait pas mal. Ça vide la tête et ça regaillardit. Alors voyez cette introduction comme ça. Je voudrais vous proposer néanmoins la lecture de quelques versets de l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 1 à 15. Je regarde ma montre, parce que si je m'écarte de trop de ma feuille de route, on risque de ne pas commencer l'Assemblée générale. Nous sommes au tout début de l'évangile de Marc et nous lisons ceci. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Arrêtons-nous ici pour notre lecture. Les auteurs bibliques et ceux du Nouveau Testament en particulier mettent en avant avec force la thématique du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Ce thème est explicitement présent dans ces versets introductifs de l'évangile de Marc. Il y a ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire l'introduction, les premières paroles, prologue de l'évangile de Marc. C'est les versets 1 à 13, dont j'ai un peu débordé jusqu'au verset 15. Déjà au verset 1er, Marc présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non pas son nom propre et son prénom, mais son nom, Yeshua, Jésus, qui rappelle son origine juive. Et ensuite, à côté, Marc utilise le mot grec Christos, qui est l'équivalent de Mashiach, qui signifie celui qui a reçu l'onction. On pourrait donc traduire, comme le suggère Dominique Angers, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Dès le commencement de son œuvre, Marc a fait le choix de recourir à deux expressions, le Christ et le Fils de Dieu. Or, ces deux expressions sont en fait des titres et des titres royaux. En effet, présenter Jésus comme le Christos, le Messie, celui qui a reçu l'onction, est une référence à l'onction qui était versée sur la tête du roi. On le retrouve dans les récits d'investiture des rois dans l'Ancien Testament. La première fois d'ailleurs qu'un roi est oint et investi sur le peuple d'Israël, c'est le roi Saül. On le retrouve dans 1 Samuel chapitre 10. Malheureusement, par sa faute, la royauté lui sera enlevée pour être donnée à celui qui ne payait pas de mine, un des fils de Jessé, s'appelle David. C'est 1 Samuel chapitre 16. Et on voit cette huile de consécration versée à chaque fois sur la tête du roi. Donc parler de Jésus comme le Christ, c'est une première balise que Marc nous donne pour dire le roi promis, le roi davidique par excellence, c'est lui. Ensuite, très rapidement, il dit que ce roi est aussi, a aussi rang de fils de Dieu. Or, cette expression fils de Dieu, au verset 11, il la reprend en citant le psaume 2. Or, le psaume 2, pour celles et ceux qui auront le temps de lire après, est un psaume d'investiture royale. Le Seigneur dit à mon Seigneur, n'est-ce pas, installe-toi. Non, là je cite de mémoire le psaume 110. Le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations complotent-elles contre loin de l'Éternel? L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2. Et ensuite, le Seigneur appelle les nations qui contestent son autorité, la coalition des peuples qui complotent contre lui, à lui faire allégeance pendant qu'il est encore temps, pendant que son règne est encore un règne pacifique. Il ne veut pas régner sur eux par la force, mais il dit, il viendra un temps, quoi qu'il en soit, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, à la fin de tout le temps, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Messie, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Certains dans la joie et dans la louange, comme nous l'avons chanté ce matin, Saint-Esprit déchire les cieux. Et on va parler de ce déchirement. Certains déjà dans l'anticipation de ce moment sont dans la joie. Parce que c'est un règne de justice qui rétablira les choses. C'est un règne de justice qui reconnaîtra Dieu dans toute sa souveraineté, dans toute sa bonté. C'est un règne de justice qui dira que Dieu n'a pas laissé l'injustice triompher. Et d'autres, hélas, s'ils restent sur leur chemin et n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils se trompent et de retourner, comme je l'ai fait avec mon fils, vers la bonne balise et de choisir un autre chemin. Hélas, hélas, s'agenouilleront et pleureront des larmes amères de regret, de déchirement, mais un déchirement de perte. Marc ne se trompe donc pas lorsque il nous rappelle que c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus qui est le Messie, qui est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie roi qui accomplit l'espérance prophétique du royaume. Aussi, au verset 2 et 3, Marc va convoquer une citation du prophète Ésaïe, chapitre 40, vous savez, qui commence par « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » C'est un roi qui vient, ce n'est pas un tyran. C'est un roi qui vient pour accomplir une œuvre de consolation. Et vous savez, Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler ceux qui sont tristes. » Ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont dans les larmes, dans la peine. C'est un roi qui vient pour manifester un règne qui n'est pas ce règne qu'on voit trop souvent, hélas, sur cette terre, où il s'agit de se servir plutôt que de servir les autres. Où il s'agit de faire peur plutôt que de consoler et de rassurer. Où il s'agit d'écraser plutôt que d'élever. Jésus vient pour accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Nous sommes, dans le contexte du livre d'Ésaïe, à un tournant où le prophète envisage, au-delà de l'épreuve de l'exil douloureux, un chemin nouveau, un chemin de rétablissement, un chemin de restauration. Dieu lui-même va venir et Dieu lui-même va conduire son peuple sur un chemin qui va ressembler au premier Exode, quand il les a libérés après 4 siècles en Égypte d'esclavage. Cette fois-ci, il va les libérer de la domination et de l'exil babylonien pour les faire marcher sur un nouveau chemin, un nouvel Exode, un chemin de restauration, un chemin de vie. Et Marc est en train de nous dire que c'est au moment où Jésus est entré dans ce monde que cette prophétie va recevoir son accomplissement le plus retentissant. Mais avant que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste s'était levé en précurseur pour préparer le chemin du Seigneur, pour appeler chacun à la repentance. Et Jésus va être baptisé par Jean. Et au moment où il sort des eaux baptismales, depuis plusieurs semaines, j'insiste, pour que ceux qui n'ont pas encore obéi à l'invitation de se faire baptiser se bousculent. C'est important, regardez, tous les passages qu'on lit nous y amènent presque. Vous êtes en train de vous dire, mais le pasteur fait une obsession. Non, je vais vous encourager. Il n'y a que des mauvaises raisons pour lesquelles on retarde le baptême. On se dit, je ne suis pas encore assez net, je ne suis pas encore assez bien, je ne suis pas encore assez sûr, je ne suis pas encore assez parfait. Mais mes amis, comprenons que le baptême, ce n'est pas pour les parfaits. C'est d'abord par là que ça commence. Je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis pécheur et je reconnais que, uni au Christ, je veux mourir avec lui et ressusciter avec lui. Et Jésus ne s'est pas fait baptiser pour lui-même, il n'avait pas péché. Mais par identification à son peuple, par appartenance, je dis aussi avec ce baptême, j'appartiens au Christ. J'appartiens à la famille du Christ, au peuple sur lequel le Christ veut régner. Eh oui! Tu es d'accord avec ça? Amen. Alors cours vers le baptistère. Cours vers le baptistère. Dis-le. Oui, c'est important ça. Et j'aime les cultes avec baptême. Ça actualise la prédication de la conversion. Et puis pour nous Français, c'est important. On dit, oh là là, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus de miracles. Mais c'est des miracles, hein. Quand un homme, une femme vient au baptême, c'est un miracle. C'est un beau miracle. Qu'un cœur soit venu à Jésus-Christ, se soit donné à Jésus-Christ, extraordinaire. C'est l'œuvre de Dieu. Et au jour du baptême, d'une certaine manière, tu entends aussi cette voix par le Christ te dire, tu es de la famille. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il fait mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Elle fait mon affection. C'est motivant, non? Jésus n'est pas passé inaperçu. Et ici, il va avoir deux déchirements. Deux déchirements. J'étais impressionné, touché par le choix des textes. Merci Vincent, parce que je sens que tu m'as aidé d'une certaine manière. Je pense, Vincent est prédicateur, donc il sait qu'on entre là dans un cycle de prédication sur le royaume, mais on ne s'est pas concerté sur le choix des chants. Je suis toujours très touché par la façon dont l'Esprit nous amène sur un chemin d'unité. Déchire les cieux. Et c'est ce qui va se passer dans ce passage. Il y a un premier déchirement. Marc va employer le verbe schizo, le verbe grec. Pensez à schizophrénie. Déchirer. Personnalité déchirée en quelque sorte en deux. Personnalité. Il va dire qu'au moment où Jésus quitte les eaux du baptême, il reçoit la vision d'une colombe venant sur lui. C'est l'Esprit Saint qui vient se poser sur lui. Jésus le voit et cet esprit déchire les cieux pour venir se poser sur Jésus. Premier déchirement pour nous dévoiler le cœur du Père. Parce que ce déchirement avec ce don de l'Esprit sur le Christ s'accompagne d'une parole qu'alors ils ont tous entendue. Parce que ce n'était pas tant pour Jésus que cette parole était donnée que pour tous ceux qui étaient là pour confirmer le statut de Jésus, son rang filial. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Dans les synoptiques, il ajoute d'ailleurs deux mots. Écoutez-le. Écoutez-le. Deuxième grande balise. Il est le Messie, le Christos. Il est le Fils de Dieu. Écoutons-le. La première fois que il y a un déchirement du ciel, c'est pour nous présenter le Fils de Dieu. C'est comme un enfantement. Le ciel s'ouvre et Dieu vient en Jésus. La deuxième fois dans l'évangile de Marc, où il va encore être question du même verbe, schizo, c'est dans Marc chapitre 15, verset 39. Marc écrit, voyant de... Pardon. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il vient de nous dire au verset 38, autant pour moi, qu'au même moment où Jésus est mort, le voile du temple se déchirait de haut en bas. Deuxième déchirement. Chapitre 1, premier déchirement. Chapitre 15, c'est-à-dire vers la fin de l'évangile de Marc, deuxième déchirement. Et ces deux déchirements encadrent tout le ministère public de Jésus jusqu'à sa mort. Et ces deux déchirements aboutissent toujours à une confession de foi. Ici, c'est la confession de foi de l'officier romain, un païen, qui dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » D'autres exégètes voit aussi dans ce double déchirement une allusion à la prière du prophète Ésaïe au chapitre 63, verset 19. Cherchez pas, manque de temps, je vais rapidement. Nous sommes depuis, voilà ce que Ésaïe disait, voilà comment il ressentait son cœur quand il voyait la situation de son peuple. Son cœur brûlait. Il dit, nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnerais pas, qui ne porteraient pas ton nom. Il voit la façon de vivre dont le peuple vit, il voit la condition du peuple, il voit cet exil terrible, leur mine de battue, de défaite, comment ils sont englués dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Et il se dit, mais Dieu, tu es où? Il fait nuit là, il fait nuit. Et au bout de la nuit, nous désespérons déjà presque. Tu es où, Seigneur, dans mes problèmes? Tu es où, Seigneur, dans cette situation? Tu es où? Montre-toi. Est-ce que ça ne nous arrive pas de dire, je ne comprends pas, Seigneur. Tu ne me parles plus. Je ne te ressens plus. Je ne te vois pas. Tu es où? J'ai le sentiment que je suis seul face à cette montagne. Mais écoutez la deuxième partie du verset 19 d'Ésaïe 63. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » J'aimerais que nous puissions nous approprier encore ce « Ah, si tu déchirais les cieux !» Et parfois, nous sommes un peu comme ça. Nous disons à Dieu, montre-nous encore des preuves. Sauf que Ésaïe, il le voit pratiquement 7 siècles avant Jésus-Christ. Donc il a hâte qu'une réalité nouvelle émerge, qu'il y ait un déchirement des cieux. Et ce déchirement va arriver. Et on peut lire Marc chapitre 1, verset 10, comme l'exaucement à la prière d'Ésaïe. Vous êtes prêts à attendre 7 siècles un exaucement ? Dans notre société de l'instantané, de l'immédiateté, où quand on envoie un SMS et qu'on n'a pas de réponse derrière tout de suite, ça devient toute une affaire d'État, etc. Je ne dis pas ça parce que pendant mes vacances, on m'envoyait des SMS. Hein, non, ce n'est pas ça le sujet. Non, non, c'est qu'on est dans, on est pris dans une société de la vitesse, etc., etc. Et Dieu exauce. Et ici, Ésaïe n'a peut-être pas vu toute la portée de sa prière. Peut-être qu'il attendait un exaucement à court terme. Et Dieu nous donne parfois des exaucements qui anticipent, qui ne sont que l'ombre des choses à venir. C'est dans ce sens que je voudrais dire les choses. Pas des petits exaucements, mais des exaucements qui ne sont que anticipation d'une réalité encore plus glorieuse. Et le retour de l'exil de Babylone vers la terre que Dieu leur avait promis ne sera que l'ombre des choses à venir. L'exaucement encore le plus fort arrive avec le Christ. Lorsque Dieu déchire les cieux, le Seigneur lui-même viendra, disait Ésaïe. Et le Seigneur est déjà venu et il s'est approché. Voilà pourquoi Jésus, en commençant son ministère, peut dire « Le royaume de Dieu s'est approché ». Il y a un lien fort entre le Père qui confie le royaume au Fils et qui vient en lui nous tendre la main. Et la prédication de Jésus, dès le début de son ministère, nous le dit, le royaume, le règne de Dieu s'est approché. Non seulement j'en suis l'objet, mais j'en suis aussi le messager. Et la bonne nouvelle, et c'est par là que je vais conclure, c'est que ce royaume qui est proche est accessible. C'est que nous pouvons y entrer autant que nous sommes. Dieu ne fait point acception de personne. La Bible nous dit qu'il ne mettra pas à la porte celui qui vient à lui. La première fois qu'il a déchiré le ciel, il est venu, c'est l'incarnation. Et à la fin de sa vie incarnée ici sur terre, le voile du temple s'est déchiré et l'auteur de l'épître aux Hébreux en fait une théologie magnifique pour nous dire quel est notre privilège. Approchons-nous donc du trône de grâce. Seulement parce que Jésus est mort à la croix. Seulement par le sang de Jésus. Seulement par la croix, comme nous l'avons chanté, que des pécheurs comme nous, pardonnés, déclarés justes en Jésus-Christ, par la foi et par grâce seule, pouvons nous approcher jusqu'à ce trône très saint et glorieux pour être secourus au moment du danger. Seulement, Jésus lui-même, dans le même sillon que Jean-Baptiste nous dit, changez de vie et croyez, car le royaume de Dieu s'est approché. On y entre, non pas par l'orgueil, on n'y rentre jamais en restant sur son piédestal. Un seul sera sur le trône. On y entre en descendant de son escabeau là, en descendant de son piédestal là, en descendant de sa tour, en acceptant de se décentrer. On n'est plus le centre du monde. On n'est plus le centre de sa vie. On n'est plus le petit nombril là, autour duquel tout doit tourner. On descend. On se prosterne devant lui et on reconnaît sa royauté. C'est le psaume 2, mais c'est également les chants que nous avons chantés ce matin. Heureux, heureuse, celles et ceux qui dès à présent saisissent ce temps spécial. Le royaume de Dieu s'est approché. C'est un temps décisif. C'est un kairos, un moment à ne pas rater. Il faut le saisir maintenant par la foi. Dans un monde où l'autorité de Dieu est encore contestée largement, sa volonté bafouée sous diverses formes, heureux celles et ceux qui acceptent dès à présent son règne. Et le voile étant déchiré, ils peuvent entrer jusqu'au trône de la grâce pour trouver secours et consolation, les yeux fixés sur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je laisse la parole à notre président de séance.
Merci. Merci Paul pour ce message. Félicitations pour le timing. Comme on a 3 minutes d'avance, si la louange veut revenir, on va prendre un chant.
Juste pendant que les amis de la louange s'installent, rappelez Olivier que nous avons, donc dimanche prochain, c'est ça, hein, samedi, pardon, prochain, hein, nos églises ont du talent, d'accord ? Donc c'est, tu veux dire rapidement 2 mots là-dessus, frère ? Tu as beaucoup travaillé pour nos églises, hein, ont du talent.
Oui, donc nos églises ont du talent, c'est 16 églises évangéliques qui se sont réunies pour mettre en place une après-midi conviviale, festive, où vous pouvez amener vos voisins, vos amis. Et sur cet après-midi-là, il y aura une à deux personnes par église qui représenteront leur église pour voilà, soit du mime, soit de la danse. Alors il y aura du hip-hop, il y aura du foot, il y aura je ne peux pas tout vous dire non plus, sinon vous ne viendrez pas. Donc écoutez, venez nombreux, c'est samedi prochain à 15h à l'église Fleuve de Vie qui est à côté de l'Intermarché de Marguerite. Merci beaucoup.
Le CD
de l'église est arrivé. Et nous l'aurons dimanche prochain. Voilà.
Il faut préparer les sous.
Oui, merci Paul. Oui, donc le CD, donc c'est 18 titres. Pour vous donner un petit aperçu, c'est 18 titres qui ont été enregistrés par tous les frères et sœurs de l'Église, musiciens compris. Tout le monde a participé. Et sur ces 18 titres, sont au prix de 12 euros.
Voilà. Et on veut remercier tous les musiciens et aussi Elisabeth pour la plaquette, c'est ça ?
Elisabeth.
Voilà, et Elisabeth pour cette belle plaquette sauveur du monde. Et vous vous rappelez également, pour celles et ceux qui l'ont noté, que ce soir, il y a une très belle représentation.
À 15h, à 17h à Beauvoisin, il y a cette comédie musicale, c'est extraordinaire, sur la croix et tout ça. C'est vraiment un très beau spectacle, inter-église aussi, hein, parce qu'ils ont embauché les gens de Beauvoisin, de Vauvert et tout ça, et c'est superbe.
Accusés, levez-vous.
Et voilà, on gagne 5 minutes et on en perd 10. Allez, on le fait quand même.
Dans la perspective de la continuité de la prédication, on va reprendre l'esprit de Dieu des chers et des chers.
Amen.
Voilà. En fait, ça, on a entendu cette fois de la parole.